y a bien des manières de commencer une histoire. Il était une fois, il y a fort longtemps, un soir de plein hiver, ou encore mon histoire commence il y a bien longtemps. Il s'agit alors de planter un décor, une époque, des personnages et ce qui les caractérise. Une fois que le décor est planté, les méandres des événements peuvent arriver. Cette étape a une grande importance parce que la façon dont elle est menée, la façon dont on pose les événements est significative et annonce la suite de l'histoire. La Bible, elle aussi, connaît plusieurs commencements. Il y a d'abord la Genèse que l'on connaît bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il y a aussi les nombreux commencements du Nouveau Testament, à travers les quatre évangiles. Au catéchisme, nous avons étudié ardemment et avec beaucoup de courage le début de l'évangile de Jean. Au début était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est tout un programme pour les enfants. Et d'ailleurs, ils vous raconteront tout ça pour le culte de Noël. Ce commencement prend des formes de la Genèse pour dire qui est le Christ et comment il se situe. On a aussi l'évangile de Matthieu qui commence par une longue généalogie et qui ainsi place Jésus dans la lignée des patriarches. Il y a encore l'évangile de Luc qui commence avec une lettre adressée à Théophile, celui qui aime Dieu. Et il indique comment il va produire le récit selon les règles historiographiques de son temps. Et nous voilà aujourd'hui avec le commencement de l'évangile selon Marc. En ce deuxième dimanche de l'Avent, où nous nous préparons à Noël, au récit de la naissance de Jésus, on pourrait s'attendre à entendre parler d'une naissance, d'une étable, ou en tout cas des choses qui le préparent. Mais il n'en est rien. Marc ne commence pas le récit avec la naissance, et d'ailleurs il ne va même pas mentionner cette naissance. Le commencement commence par autre chose. Pour commencer, il dit d'abord qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est assez étonnant parce qu'à la suite, Marc installe un vrai mystère sur qui est Jésus. Il nous donne là des clés de lecture pour commencer la lecture. Et puis vient la citation des prophètes. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, j'envoie devant toi mon messager. En fait, ici, Marc cite le prophète Malachie et le prophète Ésaïe. Il dit que la venue de Jésus-Christ est exactement ce qui avait été prévu par les prophètes. Et puis, par la suite du récit, apparaît la figure de Jean. Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il peut paraître un peu étrange. Il est habillé de poils de chameau et il mange des criquets. Eh bien, en fait, il fait référence à une grande figure de l'Ancien Testament, au prophète Élie, qui avait une toison sur le dos et une ceinture de cuir. Et les criquets sont les rares insectes qui sont désignés comme purs dans le Lévitique. Ainsi, Jean est le prophète par excellence qui annonce le Messie. Il est celui qui fait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il donne du sens à tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Mais nous allons voir que cette bonne nouvelle va amener tout un lot de nouveautés radicales. Alors, ce qui n'est pas nouveau dans le commencement de Marc, c'est comme dans chaque commencement, la parole a une place extrêmement importante. Commencement de la bonne nouvelle, il s'agit d'une nouvelle, d'une annonce, d'un message qu'on donne par la parole. Et puis vient le prophète qui proclame un message, et il est même écrit, c'est celui qui crie dans le désert. Et littéralement, on pourrait le traduire par la voix qui crie dans le désert. Et enfin, Jean arrive avec son message. Si ce passage peut nous paraître un peu bavard, c'est qu'il met la parole au premier plan. Tout commence avec une parole, avec un message. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec le commencement dans la Genèse, où Dieu crée par la parole. Dieu dit que la lumière fut, et la lumière était. Et puis, ce n'est pas sans lien avec l'évangile de Jean, on a vu avec les enfants. Au début était la parole était avec Dieu. En mettant la parole au premier plan, eh bien, c'est le sens qu'on met au premier plan dans la Bible. Parce que la parole, c'est ce qui met des mots sur les événements. C'est ce qui donne du sens aux événements. Alors la bonne nouvelle, c'est ce message qui donne du sens et de la vie. Ce sens qui est à la fois donné, c'est l'évidence de la vie qui s'impose à nous, l'évidence de la puissance de l'amour. Mais c'est un sens que nous sommes toujours et sans cesse invités à chercher, invités à creuser, invités à approfondir. C'est un sens qui ne cesse d'évoluer et de se renouveler. Et dans Marc, la recherche de ce sens va se faire dans un lieu très spécifique, dans le désert. Alors, que peut-on dire du désert ? Dans notre passage, le désert est le lieu où la voix du prophète appelle. Il est aussi le lieu où Jean-Baptiste se retire, et c'est les gens des villes qui doivent sortir de leur contexte pour aller retrouver Jean. Dans l'évangile de Marc, le lieu désert, c'est le lieu aussi où Jésus va se retirer pour prier. Mais le désert, c'est aussi un lieu d'aridité, un lieu inhabité, un lieu sauvage, un lieu dans lequel on ne peut pas rester, on ne peut pas s'installer. Sauf si on aime manger les criquets, bien sûr. Alors nous aussi, nous traversons en quelque sorte un désert, avec le confinement et l'épidémie. Nous sommes dans une situation dont on espère qu'elle ne durera pas. Nous sommes en tension, en attendant que les choses s'améliorent, en attendant un retour à la normale. Le désert, avec toutes les aridités qu'il comprend, est un moment aussi pour mettre un pas de côté, un moment pour recevoir et entendre quelque chose d'autre, malgré toute la difficulté qu'il comporte. Dans l'Ancien Testament, le désert est le lieu que le peuple hébreu a dû traverser avant d'arriver à la terre promise. C'est un moment très très particulier où le peuple hébreu a établi l'alliance avec son Dieu. Il a établi ses engagements, il a établi sa manière de fonctionner. C'est l'endroit où le peuple s'est construit. Dans notre passage, le message de Jean dans le désert invite aussi à un changement radical. Dans le texte, le mot grec c'est « metanoia ». Meta pour le changement et noia qui vient du verbe « comprendre », qui vient du mot « nous », la pensée, l'intelligence. C'est le lieu de l'âme, des émotions. Ce que Jean-Baptiste nous invite à vivre dans le désert, c'est un changement radical, une reconfiguration, un changement de pensée, un changement de logiciel, un changement de compréhension et de regard sur le monde et sur nos vies. Dans Marc, le désert est le premier lieu où se fait entendre l'annonce de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce changement radical, n'est pas voué à rester dans le désert, puisque dans le désert, on ne peut pas s'installer. Le désert ne peut être qu'un passage, une plus ou moins longue traversée. Le désert est fait de sentiers et de chemins pour le traverser. Alors si la bonne nouvelle se fait entendre dans le désert, dans ce lieu de reconfiguration, c'est aussi parce qu'elle initie un nouveau cheminement. Elle initie le mouvement de la marche. Et voilà une nouvelle image qui apparaît dans ce passage. La marche qui est initiée par le chemin. Dans la bonne nouvelle de Marc, commence en effet la citation des prophètes où il est question de chemin. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Il n'est pas question ici d'un chemin unique, d'un chemin unidirectionnel, mais bien de plusieurs sentiers, plusieurs chemins qu'il s'agit de traverser en vue de, et qu'il s'agit de tracer, de préparer en vue de la venue du Seigneur. Un chemin, ça n'est pas comme un terrain ou un territoire. Le terrain, il est délimité de part et d'autre par des frontières. Dans le terrain, on peut se déplacer devant, derrière, à gauche, à droite, mais au bout d'un moment, on sera toujours confronté à une limite. Le chemin, lui, a des limites très droites, très étroites. On ne peut aller que devant ou derrière. Mais le chemin, contrairement au terrain, il amène autre part. Devant lui, il n'y a pas de limite. Le terrain reste statique, tandis que le chemin traverse les frontières, les territoires et les paysages. Finalement, ce sont les délimitations a priori étroites du chemin qui permettent d'aller plus loin, qui donnent plus de liberté. Alors, devant le Seigneur, il ne s'agit pas de préparer le terrain. Non, il s'agit de tracer la route. Car le Seigneur ne s'installe pas dans un territoire défini. Il parcourt les chemins. Il dépasse les frontières pour rejoindre chacun et chacune là où il se trouve. Si nous sommes invités à préparer les chemins du Seigneur, ce n'est pas seulement pour nous, et même ce n'est pas seulement pour le Seigneur, car le chemin existe parce qu'il est emprunté par une multitude de personnes. Il ne sert à rien de tracer un chemin si c'est pour être emprunté par une seule personne. L'Évangile appelle donc à tracer un chemin parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à emprunter ce chemin. Si le Seigneur y passe, c'est aussi une multitude qui l'emprunte avec lui. Chacun de nous, en empruntant le sentier, nous le traçons, nous l'aplanissons. Et s'il y a un chemin, c'est qu'une multitude de personnes est passée par là et passera encore. Si l'Évangile nous invite à tracer un chemin, à emprunter ce chemin, il nous invite à prendre en compte une fraternité, une communauté de marcheurs qui dépasse de loin nos temps et qui dépasse même notre imagination. Quand il s'agit d'emprunter un chemin, il nous apparaît beaucoup plus commode de suivre la route bien tracée. Quand on fait de la marche, on aime bien repérer les GR ou les cairns pour savoir qu'on est sur le bon chemin. Et puis, c'est même beaucoup plus facile de suivre le Seigneur. Mais l'Évangile, ici, nous invite aussi à être au devant du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Il me semble que cette annonce, qui est déjà faite dans l'Ancien Testament, n'est pas réservée à Jean le Baptiste. Elle s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Alors on dit souvent que le Seigneur est avec nous sur le chemin, qu'il suit nos pas, qu'il assure nos pas. Mais ici, il s'agit aussi d'avoir le courage de se mettre au devant. C'est une invitation à ouvrir de nouvelles voies. Une invitation à continuer à marcher, malgré le fait que parfois, on se sente un peu seul sur le chemin. Le Seigneur n'est jamais loin. Et c'est peut-être d'ailleurs en continuant à marcher qu'on peut se rendre compte qu'il n'est pas loin. Cette invitation, cette injonction même, est le signe de la collaboration nécessaire entre l'homme et Dieu. Cette collaboration nous invite aussi à l'espérance vis-à-vis de ce que l'homme est et de ce que l'homme fait. Que nous, qui sommes si peu de choses, nous soyons invités à aplanir les chemins pour le Seigneur, c'est invraisemblable. Pourquoi est-ce que le Seigneur aurait-il besoin de nous ? Mais malgré nos doutes, Dieu nous invite à cette folle espérance que l'homme est le chemin que Dieu s'est choisi pour advenir dans le monde. Cette folle espérance que Dieu advient dans le monde par vous, par chacun d'entre nous. Dans l'Ancien Testament, la traversée du désert ouvrait à la perspective de la terre promise, du pays dans lequel on pourrait s'installer. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus ce territoire promis, il n'y a plus ce pays, puisque la bonne nouvelle ne s'adresse plus à un peuple spécifique. La bonne nouvelle est réservée à l'humanité entière. Il ne s'agit donc plus de s'installer quelque part et de tracer les frontières. Car le royaume de Dieu est partout. Il ne ressemble pas à un territoire terrestre. Et peut-être même qu'ici, il est figuré par ses chemins à tracer. Peut-être que le royaume de Dieu s'est justement emprunté ou tracé les chemins du Seigneur. Notre royaume de Dieu sur terre, c'est de pouvoir continuer nos routes tranquillement, mais sûrement. Et si la route continue sans cesse, alors peut-être qu'il n'est pas nécessaire de courir, mais de trouver pour chacun son allure. De trouver les bons moments pour se restaurer et les bons moments pour avancer. Cheminer sans cesse implique d'être ouvert à de nouveaux paysages, à de nouveaux horizons. Être en cheminement, c'est s'inscrire dans le dynamisme qui accueille la beauté et la nouveauté dans son processus. Et si, en marchant, nous traçons la route, c'est aussi en marchant que nous vivons et installons un peu autour de nous les traces du royaume de Dieu. La parole qui nous est donnée aujourd'hui produit du lien entre les prophètes des temps anciens et le Christ vivant aujourd'hui. Elle donne du sens à la longue histoire de notre humanité et de nos traditions. Mais elle nous ouvre aussi à quelque chose de radicalement nouveau, l'annonce du royaume pour tous, destiné à tous les humains. Ce royaume ne peut donc ressembler à un territoire aux frontières définies qui nous couperait du reste du monde. Il ressemble à une multitude de sentiers qui s'invitent dans tous les recoins de la terre pour y faire rayonner la bonne nouvelle, l'espérance du renouveau radical. Elle invite chacun d'entre nous à marcher sans relâche, mais chacun à notre rythme, avec nos temps de pause et de reprise. Alors on peut finalement se demander, quels sont-ils les chemins du Seigneur ? Quel chemin emprunter ? Quel chemin tracer ? Peut-être que les chemins du Seigneur, c'est ceux qui traversent les déserts, mais ne s'y perdent pas. Peut-être que les chemins du Seigneur, c'est ceux qui vont à la lumière de Jésus, à la rencontre de l'autre, du tout différent, de l'étranger, mais aussi du malade, du pauvre, de l'esselé. Les chemins du Seigneur prennent la direction de l'espoir, de l'amour, de la grâce. Mais ces chemins, on ne cesse jamais de les découvrir à travers eux. On ne cesse jamais de découvrir à travers eux de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, de nouveaux visages. Amen.